quand tout un groupe se retrouve coupé du monde, hors de portée des institutions qui font les lois et se chargent de les faire respecter. Selon vous, que reste-t-il au chef pour asseoir son autorité ?
De tous côtés, nos regards ne rencontraient que des objets d'horreur. D'une part, le navire qui contenait toutes nos ressources dans ce monde, broyé entre deux roches et presque rempli d'eau, et de l'autre, une terre qui ne présentait rien de consolant.
Ce jeune marin et ses compagnons d'infortune ont vécu une histoire incroyable, en partie tombée dans l'oubli. Au terme d'une minutieuse enquête, le journaliste et écrivain David Grann a reconstitué les faits dans un livre passionnant intitulé « Les naufragés du Wager ». En 1741, le Wager, un navire de la couronne britannique engagé avec toute une escadre dans la guerre coloniale entre l'Angleterre et l'Espagne, disparaît au large des côtes chiliennes. Alors que tout le monde pense l'équipage du Wager perdu à jamais, deux groupes de survivants réapparaissent à plusieurs mois d'intervalle. Ils n'ont pas emprunté le même chemin pour regagner la civilisation, mais tous sont dans un état épouvantable. Ils racontent qu'après le naufrage de leur navire, près de 150 rescapés ont échoué sur un morceau de terre désolé, loin de tout. Au fil des semaines, les morts se sont amoncelés, des clans rivaux se sont formés. Mais les récits divergent et les accusations pleuvent. Mutinerie, meurtre, abandon. Que s'est-il réellement passé sur cette île déserte ? C'est cette histoire vraie de naufragés que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène dans le sillage de ces hommes que la mer a projetés dans les marges du monde et qui, face à l'impossible, ont commis l'impensable. Mars 1741. Au large des côtes de l'Argentine, cinq navires de guerre britanniques, toutes voiles déployées, cinglent vers le sud. La mer est agitée, mais les marins le savent, ce n'est rien par rapport à ce qui les attend.
Venez du sifflet !
L'escadre se dirige vers l'une des mers les plus tempétueuses et les plus déchaînées de la planète. Les bateaux s'apprêtent à contourner le Cap Horn, la pointe sud de l'Amérique du Sud. Ils vont devoir affronter les redoutables latitudes des 40e rugissants et des 50e hurlants. Il faut en passer par là pour mener à bien la mission que la Royal Navy a confiée au chef de cette escadre, le Commodore George Henson.
Lorsque vous arriverez au large de la côte pacifique d'Amérique, vous devrez faire tout votre possible pour nuire aux possessions espagnoles en abordant, en naufrageant et en brûlant tous les vaisseaux que vous rencontrerez.
En ce milieu de XVIIIe siècle, l'Espagne et la Grande-Bretagne se livrent une guerre coloniale impitoyable. Les affrontements ont principalement lieu dans les Caraïbes, mais les Anglais veulent affaiblir leur ennemi en s'en prenant aussi à ses colonies sur la côte pacifique sud-américaine. Et surtout, en mettant la main sur le fabuleux trésor d'un galion de l'Empire espagnol. Tel est l'ultime objectif de cette mission militaire. Cela fait maintenant 6 mois que le Commodore Henson a quitté l'Angleterre avec sous ses ordres 2000 hommes, répartis sur 8 navires, dont 5 bâtiments de guerre. Le plus imposant d'entre eux, le Centurion, avec sa coque de 40 mètres de long et ses 60 canons, est dirigé par Henson en personne. Dans son sillage, naviguent le Gloucester, le Severn, le Pearl et le Wager, 37 mètres de long et 28 canons. Ce trois-mâts se distingue des autres par sa silhouette moins affûtée. C'est un ancien navire marchand. La Navy l'a racheté et réaménagé pour étoffer sa flotte. Sa coque joufflue le rend moins maniable que les autres navires de guerre, mais son rôle n'en est pas moins important. Le Wager transporte l'essentiel du stock de munitions. Cette cargaison explosive est sous la responsabilité du canonnier John Bulkeley, un homme au caractère bien trempé. Sa fonction ne le place pas très haut dans la hiérarchie, mais ses qualités de marin et son autorité naturelle lui valent le respect de tous.
Bien que canonnier du navire, j'étais chargé du quart pendant toute la traversée.
À bord, tous les marins sont loin d'avoir l'expérience de Bulkeley. La Navy, peinant à rassembler les volontaires, a enrôlé de force des centaines d'hommes qu'elle est allée chercher jusque dans les hôpitaux. Bon nombre de malades et d'infirmes ont embarqué, contraints et forcés pour grossir les rangs. L'écrivain et journaliste David Grann, qui s'est plongé dans les archives de l'époque, apporte d'autres précisions étonnantes sur la composition de l'équipage.
Il y avait également à bord des dizaines de très jeunes mousses, dont certains n'avaient peut-être pas plus de 6 ans, qui s'entraînaient à devenir marins ou officiers, et de vieux bonhommes flétris. Le cuisinier Thomas McLean avait dans les 80 ans. Ainsi que l'observait un marin, un vaisseau de ligne est, pour ainsi dire, la quintessence du monde, où il existe un spécimen de chaque caractère, quelques belles âmes et quelques vauriens de la pire espèce. Les bandits de grand chemin, les cambrioleurs, les voleurs à la tire, les débauchés.
Sur ces bateaux, on peut aussi croiser des hommes à la réputation plus honorable. À l'image de ce jeune aristocrate de 16 ans qui a embarqué sur le Wager avec un grade d'officier subalterne. Il est enseigne de vaisseau et se nomme John Byron. Issu de la noblesse anglaise, en tant que cadet de sa fratrie, deux choix s'offraient à lui. Entrer dans les ordres ou dans l'armée. Byron avait choisi la Navy, une voie plus aventureuse, mais aussi plus rude. Le jeune homme a vite compris qu'il n'avait pas embarqué sur le meilleur navire de la flotte.
On ne pouvait espérer qu'un tel bâtiment, ainsi surchargé, manœuvrerait avec la promptitude et l'aisance nécessaires ou même indispensables dans les mers orageuses qu'il allait traverser.
Comme tous les officiers de son rang, Byron dort dans un hamac accroché aux poutres d'un entrepont sordide, sans lumière. Il doit supporter la promiscuité et les odeurs putrides. Une épidémie de typhus propagée par les poux a déjà emporté des dizaines de marins sur chaque bateau. Les hommes encore debout redoublent d'efforts. Le révérend Walter, embarqué sur le Centurion, racontera.
La maladie n'était pas seulement terrible dès sa première poussée, car même les séquelles se révélaient souvent fatales pour ceux qui se considéraient comme rétablis. Ils se trouvaient hors d'état de manœuvrer, et quelques-uns d'entre eux sans espérance de rétablissement.
Fin janvier, soit 4 mois après le départ, le typhus a emporté le capitaine du Pearl, ce qui a obligé le Commodore Henson à réorganiser le commandement de ses navires. David Chip, qui avait commencé le voyage sur le Centurion en qualité de second du Commodore, a été nommé capitaine du Wager. Plus qu'une promotion, un véritable honneur pour cet homme plein d'ambition qui n'avait jamais dirigé un vaisseau de guerre auparavant. Les marins du Wager ont regardé monter à bord leur nouveau commandant avec une curiosité doublée d'une certaine inquiétude. Désormais, leur sort allait dépendre des décisions et des compétences de cet homme, seul maître après Dieu sur son bateau.
Messieurs, article 1. Tous les commandants, capitaines et officiers, à bord ou appartenant à l'un des navires ou vaisseaux de guerre de Sa Majesté, veilleront à ce que le culte public du Dieu Tout-Puissant...
En pleine mer, devant l'équipage rassemblé sur le pont, Chip a lu les 36 règles des articles de guerre qui régissent la vie à bord.
Article 19. Aucune personne présente dans la flotte ou lui appartenant ne prononcera d'appel à la sédition ou à la mutinerie sous peine de mort. Article 20.
David Chip allait devoir asseoir son autorité et ses qualités de marin allaient être mises à l'épreuve sans attendre. Un mois seulement s'est écoulé depuis la nomination du nouveau capitaine du Wager. Nous sommes le 6 mars 1741 et l'escadre s'apprête à affronter le Cap Horn. Henson a donné pour consigne à tous les capitaines de faire leur possible pour ne pas perdre de vue le reste de l'escadre. Les vaisseaux doivent pouvoir se porter assistance en cas de problème ou de mauvaise rencontre avec des navires de la flotte espagnole. Un navire esselé passerait du statut de chasseur à celui de proie. Le Cap Horn ne faillit pas à sa réputation. Le vent forcit, la mer se creuse. Bientôt, les éléments se déchaînent et malmènent avec acharnement les gigantesques voiliers comme s'il s'agissait de minuscules coques de noix. Les bateaux dévalent des creux vertigineux, les voiles s'agitent en tous sens, les coques crient leur détresse dans de lugubres craquements.
Le Cap Horn, c'est là.
Sur le pont du Wager, Chip le visage trempé par les embruns, hurle ses ordres. Il perd de vue un temps les autres bateaux, manque d'être projeté vers la côte rocheuse du Nil, mais il fait preuve d'un sang-froid et d'une habileté remarquable. Le jeune enseigne de vaisseau, Byron, est impressionné.
Nous avons entrepris tout ce qui était en notre pouvoir pour retrouver notre route, rattraper notre retard et reprendre notre poste.
Même le canonnier Bulkley, vieux briscard aguerri, se montre élogieux.
Un excellent marin. Pour ce qui est de la bravoure individuelle, aucun homme n'en possède davantage que lui.
Faites route au sud-ouest ou par ouest ?
Sud-ouest par ouest, monsieur !
Pendant des semaines, les navires se battent contre les éléments, sans parvenir à avancer. Parfois même, pris dans la tempête, ils reculent.
Le vent souffle avec une telle violence que rien ne peut résister. Et la mer se creusetant, qu'elle martèle et met un navire en pièces.
Le mât avant du Wager vient d'être arraché par une vague encore plus puissante que les autres. Sur la mer déchaînée, le charpentier John Cummins parvient à le remplacer en fixant verticalement une baume de 13 mètres. Cette réparation de fortune permet au Wager de ne pas se laisser distancer. Le corps des marins aussi se délite. Une nouvelle épidémie s'est invitée à bord. Elle tenaille les articulations, pourrit les chairs, déchausse les dents et fait tomber les cheveux par poignées. C'est le scorbut. À cette époque, on ignore que cette maladie qui fait des ravages sur les bateaux est provoquée par la carence en vitamine C.
Presque tout l'équipage de mon navire est malade. Et les hommes sont si fatigués par ce voyage d'une longueur excessive, par cette période prolongée de mauvais temps et par le manque d'eau potable, qu'ils ne sont guère aptes à accomplir leurs devoirs.
Pendant que les hommes dépérissent, les rats prolifèrent. Les navires prennent des allures de vaisseaux fantômes. Le 10 avril 1741, après 4 semaines de lutte pour tenter de doubler le Cap Horn, 2 vaisseaux, le Pearl et le Severn, se laissent distancer. Le capitaine du Wager s'accroche, mais 9 jours plus tard, à son tour, en pleine nuit, il perd de vue les feux du Centurion. Définitivement. Au petit matin, le Wager est seul. Seul sur une mer démontée, avec son mât rafistolé, sa coque endommagée, et ses voiles en partie déchirées. Pour le capitaine Chip, pas question de faire demi-tour. Il compte bien retrouver le Centurion à la prochaine escale prévue sur l'île de Socorro. Rien ne pourrait le faire renoncer, pas même le scorbut qui le ronge, ni les cadavres toujours plus nombreux que l'on doit jeter par-dessus bord.
Que le destin singulier des hommes soit tel qu'il doit advenir, mais que l'honneur de notre pays demeure immortel.
Des officiers commencent à se demander où les conduira l'obstination de leur capitaine. L'inquiétude augmente encore lorsque l'équipage s'aperçoit que le bateau fait fausse route.
Comble de malheur, nous reconnûmes que nous chassions sur la côte où le vent nous portait. Nous avions persévéré par erreur dans cette direction parce que le temps ne permettait pas de faire des observations et qu'il n'y a point de carte dans cette partie de la côte.
En remontant trop tôt vers le nord, le Wager s'est dangereusement rapproché des côtes de la Patagonie.
Lorsque les officiers, qui aperçurent les premiers la méprise, en firent l'observation au capitaine Chip, en l'invitant à virer de bord et à cingler au large pour plus grande sûreté, il persista à se diriger, comme il le supposait, sur l'île de Socorro. Et quand on lui témoigna la crainte d'échouer sur le bras de la côte qui s'étend à l'ouest, il répondit qu'il avait reçu des ordres auxquels il était tenu de se conformer.
Les courants et la houle nous poussent vers la côte. Monsieur, le navire est une complète épave. Notre mât de misaine est tombé et tous nos gens sont diminués.
Le canonnier Bulkley a beau insister, Chip se montre inflexible. Par fierté, par sens du devoir, pour être à la hauteur de ce que l'on attend d'un capitaine d'un vaisseau de guerre, il ordonne de continuer sur cette route qui, pense-t-il, lui permettra de rejoindre au plus vite le Commodore Henson. Un entêtement que le capitaine et ses hommes vont payer très cher. Le 13 mai 1741, le Wedger, poussé par les vents et les courants, se retrouve pris au piège d'une gigantesque baie, le golfe des Pennes.
Paré à abaisser la voile, à tous sur le pont exécutif.
La mer s'acharne, le bateau souffre. Les marins encore aptes s'affairent en tous sens.
Relevez-vous, mon sang !
En se précipitant sur le pont pour leur venir en aide, le capitaine Chip passe à travers une écoutille restée ouverte. Il tombe et heurte violemment le plancher de l'entrepont, 2 mètres plus bas.
On m'a porté hébété et blessé après cette méchante chute.
Chip s'est démis l'épaule. Pour apaiser la douleur, le chirurgien Walter Elliott lui administre de l'opium. Pendant que le capitaine s'envole vers des rêves cotonneux, le Wedger part à la dérive. Vers 4 heures du matin, un grondement sourd monte des entrailles du navire. Le Wedger vient de percuter un rocher immergé.
Tous à vos postes !
Les vagues le soulèvent et le projettent sur d'autres récifs. Le gouvernail vole en éclats. Une ancre de 2 tonnes se détache et éventre la coque. L'eau s'engouffre. Dans les entrepôts, c'est le sauve-qui-peut.
Tous ceux qui en avaient la force accoururent sur le pont. Et nous y vîmes des figures qui n'y avaient pas paru depuis 2 mois. Ceux que le scorbut ou d'autres maladies retardent dans leur hamac furent noyés immédiatement.
Le trois-mâts, immobilisé dans un amas de rochers, se disloque sous les coups de boutoir de l'océan, mais il ne sombre pas complètement.
Providentiellement, nous restâmes fermement calés entre 2 gros rochers.
Une fois les effets de l'opium dissipés, le retour à la réalité est douloureux pour le capitaine Chip. Son bateau est perdu, ses rêves de gloire aussi. Pour ne rien arranger, sa clavicule remise en place par le chirurgien le fait atrocement souffrir.
En pareil moment, il donna ses ordres avec le sang-froid qu'il avait toujours possédé.
Dégagez ! À mettre à l'eau les canots !
Chip dirige l'évacuation du navire. Au loin, de sombres sommets émergent dans la brume. Cette terre lugubre sera leur refuge.
Allez-y à fond !
À poil ! Canot à l'eau !
Tant bien que mal, on met à l'eau les canots encore en état. La barque la plus grande étant ensevelie sous des débris, il faudra se contenter des 3 plus petites embarcations. Une 10aine d'hommes renoncent à quitter le navire. Ils pillent les réserves, s'abreuvent d'alcool et commencent à se battre entre eux. Chip se résout à les abandonner et embarque sur le dernier canot. Sous une pluie battante et dans un vent glacial, les marins rament de toutes leurs forces et finissent par toucher terre. Sur les quelques 250 hommes et mousses à avoir embarqué sur le Wedger 8 mois plus tôt, 145 survivants accostent, à gare et en loc, sur le rivage désert d'une île inconnue. Parmi eux, un mousse de 12 ans, le cuisinier octogénaire McLean, le charpentier Cummins, le canonnier Bulkeley et l'enseigne de vaisseau Byron.
De tous côtés, nos regards ne rencontraient que des objets d'horreur. D'une part, le navire qui contenait toutes nos ressources dans ce monde, broyé entre 2 roches et presque rempli d'eau, et de l'autre, une terre, qui ne présentait rien de consolant. L'eau découlait de nos vêtements, le froid nous faisait violemment souffrir, et nous avions une faim dévorante sans moyen apparent de satisfaire aucun de ses besoins.
En explorant le rivage, des hommes découvrent une hutte circulaire faite de branchages. À l'intérieur, ils trouvent des lances, mais il n'y a personne. Où sont les hommes qui ont construit et habité cette cabane ?
Notre incertitude quant à leur force et à leur disposition d'esprit nous fit imaginer le pire et nous mit un tourment permanent.
Au petit matin, on déplore déjà plusieurs morts. La nuit a aussi été fatale pour une partie des marins restés sur l'épave. Les derniers survivants en train de dessouler tirent des coups de canon pour que l'on vienne les chercher. Parmi eux, il y a le chef d'équipage John King, dont la brutalité a fait rentrer dans le rang plus d'un matelot par le passé. Mais cette fois, c'est lui le fautif. À peine ramené à terre, le capitaine Chip le punit publiquement en lui assénant une pluie de violents coups de canne. David Chip veut montrer à tous que bien qu'il n'ait plus de bateau et qu'il ne soit plus en mer, il reste le capitaine. Au fil des jours et de leurs explorations, les naufragés découvrent à quel point le morceau de terre sur lequel ils ont échoué est inhospitalier. Ils sont sur une île de 6 km de long pour 3 de large. À l'intérieur des terres, des forêts sombres et impénétrables que surplombent plusieurs montagnes noires. Dans ce paysage austère, battu par des vents glacés, même les oiseaux se font rares.
Un environnement plus aride que toute autre région du globe, en ce qu'il n'offre ni fruits, ni graines, ni même des racines apportant de subsistance à l'homme.
Les naufragés ne parviennent à pêcher aucun poisson. Pour se nourrir, ils ramassent des coquillages sur les plages, abattent un oiseau quand l'occasion se présente et cueillent le céleri sauvage qui pousse ça et là. Les hommes sont affamés. Le capitaine Chip ordonne que l'on retourne sur l'épave pour y récupérer tout ce qui peut l'être.
Ma première tâche fut de nous assurer d'une bonne quantité d'armes, de munitions et de quelques provisions.
Le canonnier Bulkley est chargé de mener cette opération périlleuse avec quelques hommes.
Sortit plusieurs tonnelets de rhum et de vin et les ai rapportés à terre.
Sont aussi rapportés à terre farine, pois secs et viande séchée, ainsi que des armes, des outils, des vêtements, des chaussures, des bougies ou encore des voiles et des cordages. Sur le rivage, le capitaine Chip a érigé une tente à côté de sa hutte pour y entreposer sous bonne garde les vivres, mais aussi les armes et les munitions. Chip se méfie. Il sait pouvoir compter sur un groupe de fidèles dont font partie le lieutenant des Marines Thomas Hamilton, le commissaire de bord Thomas Harvey ou encore le chirurgien Walter Elliott. Mais au-delà de ce cercle rapproché, le capitaine sent monter une certaine hostilité. Des groupes parlent à voix basse et s'interrompent sur son passage. Selon les règles de la Navy à l'époque, dès qu'un bateau est désaffecté, son équipe n'est plus rémunérée. Ce qui conduit certains rescapés à penser que le naufrage a mis un terme à toute perspective de gains supplémentaires. Plus de bateaux, plus de salaire, alors pourquoi continuer à se soumettre aux ordres de ce capitaine autoritaire qui les a conduits à leur perte ? Le capitaine parvient à apaiser les mécontents grâce au nouveau stock de vivres. Il les distribue avec parcimonie, certes, mais enfin, les naufragés ont de quoi manger. Et sans qu'ils sachent pourquoi, leur santé s'améliore. Le céleri sauvage avec lequel ils complètent leur repas comble progressivement leur carence en vitamine C et les guérit du scorbut. Bulkley, avec l'aide du charpentier Cummins et de quelques compagnons, se construit une cabane améliorée dotée d'une charpente pourvue de cloisons isolées avec de la laine et recouvertes de branchages. Voici le canonnier et ses amis mieux logés que leur capitaine. D'autres groupes se rassemblent par affinité et bâtissent leur habitation. Le campement prend des allures de petit village.
Peu à peu, nous vîmes à bout de nous faire des logements assez commodes. Observant notre nouveau bourg, nous constatons qu'il ne compte pas moins de 18 maisons.
Une infirmerie est également aménagée sous une tente pour les malades. Mais ce semblant de village n'a rien de paisible. Une question lancinante hante les esprits et les discussions. Comment s'échapper de cette île infernale ? Un jour, alors que Bulkley, Byron et quelques autres sont occupés à fouiller l'épave,
un bref instant, il m'a semblé voir une silhouette.
Ils voient venir vers eux trois canoës. À leur bord, des hommes à la peau brune, coiffés d'une longue chevelure noire. Ils sont armés de lances et de frondes.
Leur tenue n'était faite que de quelques morceaux de peau de bête autour de la taille et d'un vêtement de plume sur les épaules.
Les Britanniques, frigorifiés par la pluie et le vent, dévisagent ces hommes torse nus, bravant le froid sans difficulté. Les nouveaux arrivants sont tout aussi surpris, et peut-être davantage encore, de trouver ces êtres livides, en guenilles, au milieu de cette baie qu'ils connaissent depuis toujours.
Ils hésitèrent quelque temps à approcher. Mais à force de leur faire des signes de paix et d'amitié, et particulièrement en leur montrant des balles de marchandises, nous les déterminâmes. Ils acceptèrent ce que nous leur offrîmes et se laissèrent conduire chez le capitaine qui leur fit encore des présents.
Ces hommes appartiennent au peuple des Kaweskar. Ce sont des nomades des mers. Leur territoire s'étend sur des centaines de kilomètres le long du littoral au sud du Chili.
Comme ils ne possédaient pas un seul outil ou ornement fabriqué en Europe, nous présumâmes qu'ils n'avaient jamais vu des habitants de cette partie du monde.
Pour le capitaine Chip, ces hommes sont une chance inespérée. Ils savent comment trouver de la nourriture, connaissent la côte dans ses moindres détails. Ils pourraient les aider à quitter l'île et leur montrer la route la plus sûre, peut-être même leur indiquer les positions des colonies espagnoles. Voilà pourquoi le capitaine anglais réserve un si bon accueil à ces hommes et leur offre tout ce qu'il peut, chapeau, miroir, en signe d'amitié. Les autochtones semblent sensibles à ces attentions, mais la barrière de la langue rend difficile la communication. Ils finissent par repartir sur leur canoë comme ils étaient venus. Quelques jours plus tard, les nomades des mers réapparaissent, avec à bord de leurs embarcations de la nourriture en quantité et, à la surprise générale, 3 moutons.
Je ne conçois pas où ils purent se procurer ces animaux dans un pays si éloigné de tous les établissements espagnols.
À ce sujet, le journaliste David Graham émet une hypothèse.
À l'évidence, ils s'étaient donné le plus grand mal pour mettre la main sur ces bêtes. Les Kaweskar, qui n'avaient pas la réputation de manger ces animaux, se les étaient vraisemblablement procurés en commerçant avec un autre groupe d'indigènes, eux-mêmes en contact avec les Espagnols, à plusieurs centaines de kilomètres plus au nord.
Les nomades des mers repartent, mais ne tardent pas à revenir en nombre. Ces blancs et leurs objets étonnants semblent être devenus une attraction dans la région. Cette fois, les hommes sont accompagnés de femmes et d'enfants.
Nous avons compris que leur intention était de s'installer parmi eux.
Les Kaweskar établissent leur campement. À peine arrivés, ils assistent à la mort de l'un des Anglais malades. Bulkley est touché par leur attitude.
Les Indiens sont très attentifs aux défunts. Ils restent en permanence assis près du cadavre et le recouvrent avec soin. À chaque instant, ils observent le visage du disparu avec une extrême gravité. Nous vîmes ces gens très attentifs, très observateurs, et le restèrent jusqu'à la fin de l'enterrement.
Les autochtones se révèlent particulièrement efficaces pour trouver de la nourriture. Ils savent pêcher des poissons avec l'aide de leurs chiens.
Ces animaux, qu'ils ont dressés pour cette chasse, poursuivent les poissons jusqu'au fond d'une anse où les Indiens les prennent très adroitement.
Les femmes plongent profondément et remontent quantité d'oursins à la surface. Mais l'embellie est de courte durée. Quelques jours après l'arrivée des Kaweskar, un petit groupe de marins se saoule et se comporte mal avec les femmes. Certains projettent de voler les canoës des autochtones pour quitter l'île. Chip tente de ramener l'ordre, mais les nomades en ont assez vu. Ils préfèrent reprendre la mer et abandonner ces hommes si peu civilisés à leur triste sort, aux grandes dames du jeune Byron.
Si nous avions été capables de les recevoir comme il se devait, ils nous auraient été d'une grande aide.
Les naufragés viennent de laisser filer leur meilleure chance de s'en sortir. Sans l'aide des Kaweskar, les réserves de nourriture vont diminuer beaucoup plus rapidement. Chip réduit les portions, le rationnement relance la grogne et l'arrivée de l'hiver n'arrange rien. La pluie se transforme en neige ou en grêle.
La grêle frappe le visage d'un homme avec une telle violence qu'il ne peut guère y résister.
Face à l'adversité, l'équipage se fragmente un peu plus. Un groupe d'une dizaine de naufragés, surnommés les dissidents, quitte le campement principal pour s'installer à l'écart. Ils sont armés et hors de contrôle. mieux vaut ne pas croiser leur route. Un jour, un marin est retrouvé mort dans des broussailles, le corps criblé de coups de poignard. Pour Byron, pas de doute, des dissidents l'ont sauvagement assassiné pour voler le peu de nourriture qu'il avait réussi à glaner. Le reste de l'équipage est loin d'être soudé. Le chef des Marines, Robert Pemberton, a rapidement pris ses distances avec le capitaine Chip. Il considère que depuis le retour forcé à terre, les soldats rescapés sont sous son autorité exclusive. Pemberton trône dans sa cabane, entouré de militaires en armes à ses ordres. Un autre groupe, au contour moins bien défini, gravite autour de John Bulkeley. La capacité du canonnier à résister dans la tourmente, son autorité naturelle, font de lui une figure rassurante. Soir après soir, des hommes appartenant à toutes les strates de l'équipage se succèdent dans sa maisonnette pour le consulter et lui faire part de leurs griefs contre le capitaine. Une bonne partie de l'état-major est restée fidèle à Chip, mais certains le soutiennent sans trop de conviction. À commencer par son second, le lieutenant Robert Bynes. D'un tempérament indécis et peu affirmé, il reste en retrait, comme s'il hésitait à choisir son camp. Imperturbable, Chip continue de donner ses ordres avec la fermeté qui le caractérise. L'une de ses préoccupations du moment est de mettre un terme au vol perpétré la nuit dans la tente où sont entreposés les vivres. Trois voleurs sont pris la main dans le sac. Chip tient à ce que les règles de l'amirauté, même au milieu de nulle part, soient respectées. Un semblant de procès est organisé. La sanction tombe. 600 coups de fouet pour chaque coupable. Et comme si ce châtiment extrême ne suffisait pas, on décide d'y ajouter le bannissement. Après avoir été fouettés, les voleurs sont abandonnés, à demi-morts, sur un îlot voisin. Malgré la sévérité de ces peines, d'autres vols surviennent. Chip a beau faire, aucune sanction, aussi lourde soit-elle, ne semble pouvoir enrayer la lente déliquescence de son autorité. C'est parce qu'il ne le supporte plus qu'il va bientôt commettre l'irréparable. Le 7 juin 1741, près d'un mois après le naufrage, le capitaine Chip demande à Henry Cousens, l'un des amis de Byron, enseigne de vaisseau tout comme lui, de déplacer un tonneau de vivres. Cousens, apparemment ivre, s'y refuse, arguant que le tonneau est trop lourd.
« Espèce de scélérat ! Fais-toi aider par d'autres hommes et roule ce tonneau en haut !»
Le ton monte. Le capitaine finit par rouer de coups l'enseigne de vaisseau et le fait emprisonner jusqu'au soir. L'incident aurait pu en rester là, mais trois jours plus tard, lors d'une distribution de nourriture, le même Henry Cousens, apprenant que sa ration de vin a été réduite, s'en prend à l'un des fidèles du capitaine, le commissaire du bord Thomas Harvey. Les insultes pleuvent, puis les menaces. Harvey sort son pistolet et tire en direction de Cousens, sans l'atteindre. Le capitaine Chip, alerté par le coup de feu, se précipite hors de sa hutte, une arme à la main. Pour lui, aucun doute, c'est Cousens qui a tiré. Sans chercher à en savoir plus, il colle le canon de son arme sur la joue de ce jeune officier subalterne qui, pour la deuxième fois en trois jours, défie ostensiblement son autorité. Sans aucune autre forme de procès, le capitaine Chip vient de tirer à bout touchant dans la tête de l'un de ses enseignes de vaisseau. Henry Cousens gît au sol dans une mare de sang. Horrifié, John Byron accourt et s'agenouille à côté de son camarade.
Il avait encore la connaissance, et m'ayant aperçu, me tendit la main et me fit signe de la tête, comme pour me dire adieu.
Un attroupement se forme autour de la victime.
Tous les yeux étaient fixés sur elle, et les marques visibles de la plus profonde inquiétude étaient perceptibles sur les visages.
Les témoins s'agitent, un brouhaha s'installe. Conscient de l'émoi que suscite son geste, le capitaine Chip s'empresse de disperser le groupe.
Je suis encore votre commandant. Alors, que maintenant, chaque homme réintègre sa tente.
Après un moment de flottement, chacun s'éloigne, en silence. Chip fait transporter Cossens dans la tente de l'infirmerie. Malgré les soins prodigués, le 24 juin, John Bulkeley écrit dans son journal
« Monsieur Henry Cossens, enseigne de vaisseau, a quitté ce monde après avoir dépéri 14 jours. »
Cossens était un camarade apprécié. Sa mort creuse un peu plus le fossé entre le capitaine Chip et ceux qui déjà le critiquaient dans l'ombre. Le capitaine du Wager a-t-il outrepassé ses droits en abattant froidement l'un de ses hommes ? Beaucoup le pensent. Selon David Graham, Chip lui-même est travaillé par son geste et ses conséquences.
Dans les jours qui avaient suivi la mort de Cossens, le capitaine Chip s'était enfermé dans sa hutte, broyant du noir, tâchant de raisonner au désespoir. L'amirauté jugerait-elle l'usage de son arme légitime ou serait-il pendu pour meurtre ?
Pour reprendre la main, Chip veut remobiliser ses troupes et leur donner des raisons d'espérer. Il décide de soutenir avec énergie le plan d'évasion imaginé par le charpentier Cummins. Récupérer la grande chaloupe coincée dans les débris de l'épave et la transformer en un bateau suffisamment grand et robuste pour quitter l'île. Une fois la chaloupe renflouée, le chantier commence sur le rivage. Les outils sont rudimentaires, les hommes sont affamés, mais ils travaillent du soir au matin. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il grêle, ils vont chercher dans les forêts alentours le bois dont ils ont besoin. Ils extraient tous les clous qu'ils peuvent de l'épave.
Ils souffrent grandement et parviennent à peine à marcher.
C'est l'espoir qui fait tenir debout ces corps décharnés. Et l'espoir grandit au fur et à mesure que le nouveau bateau prend forme. Dans le même temps, une idée fait son chemin dans l'esprit du capitaine Chip. Ce nouveau bateau ne pourrait-il pas lui permettre de mener à bien la mission militaire initiale ? Il faudrait remonter la côte chilienne sur 600 km pour atteindre la première colonie espagnole située sur l'île de Chiloé. Là, ils attaqueraient par surprise un navire marchand ennemi. Après s'en être emparé, Chip rejoindrait triomphant le Commodore Henson. Il transformerait ainsi son échec en exploit. L'ambitieux capitaine n'a pas renoncé à ses rêves de gloire. Mais son projet est jugé insensé et suicidaire par Bulkeley et ses alliés.
Notre chaloupe, une fois achevée, ne pourra être apte à d'autres entreprises que celle de préserver nos vies.
Bulkeley veut rentrer en Angleterre. En se plongeant dans un récit de navigation sauvé du naufrage, le canonnier a établi la route à suivre.
Notre passage par le détroit de Magellan vers la côte du Brésil serait le seul moyen d'éviter de tomber entre les mains d'un ennemi cruel, barbare et offensant.
John Bulkeley n'ignore pas que le détroit de Magellan est un passage dangereux, sinueux et labyrinthique, battu par des vents imprévisibles.
Des maux désespérés appellent des remèdes désespérés.
Bien que semé d'embûches, ce détroit reste une route moins risquée pour regagner l'Atlantique que celle de la pleine mer autour du Cap Horn. Bulkeley, accompagné de ses soutiens, va à la rencontre du capitaine Chip et lui lit très officiellement cette requête.
Nous, dont les noms sont mentionnés ci-dessous, après mûre réflexion, pensons que le moyen le meilleur, le plus sûr et le plus valable de préserver l'intégrité du groupe présent en ces lieux sera d'emprunter le détroit de Magellan vers l'Angleterre.
Au bas du texte figurent les signatures du chef des Marines, Pemberton, du charpentier, Cummins, de nombreux marins et de plusieurs officiers, dont Byron. La liste est bien trop longue pour que le capitaine puisse sanctionner qui que ce soit. Mais pas question de céder pour autant. Chip refuse catégoriquement. Il a reçu des ordres stricts et fera tout ce qui est en son pouvoir pour rejoindre le Commodore après s'être emparé d'un navire espagnol. Cummins et Bulkeley argumentent. Comment penser capturer un vaisseau à l'aide d'une chaloupe sans canon ? Leur nouvelle embarcation ne résisterait pas 2 secondes sous le feu de canons ennemis. Et puis comment être certain que le Centurion n'a pas lui aussi sombré ? Le capitaine, voyant une fois de plus son autorité contestée, laisse exploser sa colère. La discussion est close. Dans le campement, la tension monte d'un cran. Chacun fourbit ses armes. Les soutiens de Chip sont en infériorité numérique, mais ils disposent du plus gros arsenal. Et surtout, Chip reste protégé par son statut de capitaine. Personne n'ose commettre la faute la plus grave dans la Navy, passible de la peine de mort, une mutinerie. Bulkeley doit ruser pour arriver à ses fins. Aucune raison légale ne pourrait justifier qu'un canonnier prenne le commandement. Formellement, en cas de défaillance du capitaine, c'est à son second que doit revenir le pouvoir. Alors Bulkeley entreprend de rallier à sa cause le second du capitaine Chip, l'insaisissable et très effacé lieutenant Bynes. Il tente de le persuader que l'exécution sommaire de Cousins par le capitaine devant témoin justifie juridiquement son arrestation et l'implore de prendre le commandement pour rentrer en Angleterre par le détroit de Magellan. Bynes se laisse convaincre. Les deux hommes, accompagnés d'officiers et de soldats, se présentent au capitaine Chip pour lui demander, au nom de la majorité, de renoncer à son pouvoir au profit du lieutenant Bynes. La réponse du capitaine fuse dans le vent glacé.
Quel est l'homme assez hardi pour entreprendre de m'ôter le commandement ?
Chip se tourne alors vers son second et, plantant son regard dans le sien, lui demande :
Vous, monsieur ?
Le lieutenant Bynes semble se liquéfier sur place.
L'allure terrifiante du capitaine déconcerta le lieutenant au point qu'il avait l'air d'un fantôme.
Non, monsieur.
Bynes n'a pas eu le cran d'aller au bout. Chip reste le capitaine, mais il est de plus en plus isolé. Au fil des jours, il voit ses alliés lui tourner le dos les uns après les autres. Mais le capitaine tient bon. Bulkeley, son principal rival, admet être impressionné.
Le capitaine montra là toute la conduite et le courage imaginable. C'était un homme seul contre une multitude, tous mécontents de lui et tous en armes.
Dans cette atmosphère de plus en plus irrespirable, le chantier avance. Début octobre, soit 140 jours après le naufrage, la chaloupe a achevé sa mue. Ses bords ont été rehaussés et un pont ajouté. Désormais, c'est une arche de 15 mètres de long dotée d'une cale et pourvue de deux mâts. Pour que tout le monde puisse embarquer, il faudra aussi utiliser les trois autres petites embarcations du Wager. Les naufragés sont prêts pour le grand départ. Mais pour l'écrasante majorité, il est hors de question que le capitaine Chip prenne le commandement de cette escadre de fortune pour partir à l'assaut d'un navire espagnol. La suite était inévitable. Dans la nuit du 9 octobre 1741, Bulkeley et ses alliés, armés de pistolets, de baïonnettes et de coutelas, s'introduisent dans la hutte du capitaine Chip. Ils se ruent sur lui pendant son sommeil et le ligotent sans aucun ménagement.
Nous sommes venus vous arrêter pour la mort de Cousins.
Je n'aurais pu penser que vous me serviriez de la sorte.
Monsieur, c'est votre faute. Vous ne vous êtes aucunement soucié du bien commun, mais avez agi tout à fait à l'inverse.
Chip est conduit dehors, à moitié vêtu, les mains attachées dans le dos. Devant ceux qui le regardent passer, il tente de rester digne.
Vous devrez m'excuser de ne pas retirer mon chapeau. J'ai les mains entravées.
Le maître d'équipage, John King, lui assène un coup de poing en plein visage. Le nez en sang, David Chip ne baisse pas les yeux.
Il faut être bien lâche pour maltraiter un gentilhomme prisonnier.
Chip et son dernier soutien, le lieutenant des Marines Hamilton, sont désormais des prisonniers surveillés jour et nuit. À partir de maintenant, Robert Bynes, l'ancien second, est officiellement le capitaine. Mais tout le monde a compris que le véritable commandant se nomme John Bulkeley. Le 14 octobre 1741, après avoir vécu 5 mois sur l'île, Bulkeley et sa troupe embarquent. Chip aurait été un prisonnier trop encombrant. Il restera sur l'île avec les 2 seuls hommes qui lui sont restés loyaux jusqu'au bout, le lieutenant des Marines Hamilton et le chirurgien Elliot. On leur a laissé quelques vivres, une boussole, 2 pistolets et la plus petite des embarcations, une yole de 5 mètres de long. Chip regarde son ancien équipage monté à bord de la grande barque et des 2 autres canots. Ils sont 81 à quitter l'île. Parmi eux, le commissaire du bord Harvey, l'un des derniers à avoir retourné sa veste, le cuisinier octogénaire McLean, toujours en vie, le maître d'équipage King et l'enseigne de vaisseau John Byron, âgé maintenant de 17 ans. Celui-ci semble avoir des scrupules à abandonner son capitaine. Mais quelles auraient été ses chances de s'en sortir en restant avec lui sur cette île ? À dire vrai, les chances de parvenir à traverser le détroit de Magellan entassé dans ses embarcations sont également très minces.
Notre bâtiment était si étroit qu'à peine pouvait-il nous contenir. Nous y étions si pressés que la plus mauvaise prison aurait eu pour nous moins d'incommodité.
Depuis le rivage, Chip, le regard sombre, voit s'éloigner l'essentiel de l'équipage du Wager. Lui et ses 2 derniers fidèles devront cohabiter avec le groupe de dissidents qui ne compte plus que 7 marins vivant à l'écart et sur lesquels il n'a plus de contrôle depuis très longtemps. La situation du capitaine déchu semble désespérée, celle de ceux qui l'ont abandonné est à peine plus enviable. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, il y aura des survivants dans les 2 groupes. Ces naufragés qui se sont déchirés loin de tout pour survivre finiront par se retrouver. Et c'est d'une autre façon qu'ils devront s'affronter pour sauver leur peau. La descente aux enfers des survivants du Wager est loin d'être terminée. Je vous raconterai la suite de cette histoire vraie de naufragés dans un prochain épisode. Naufragés, une histoire vraie, est un podcast original de France Inter.